Mais il y en a une qu'on avait présélectionnée en quelque sorte, parce que au tout début, on a parlé de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Monsieur Dien a parlé à un moment de l'universalité. Et donc, on se pose la question, et le mouvement antiraciste se pose la question parce que il est aussi varié et en débat. Est-ce que la question de l'universalité est aussi simple que ça? Et il y a des courants qui la remettent en cause, qui en discutent. Alors, nous avons avec nous Monsieur Jean-Loup Amsel, qui a écrit beaucoup de choses, entre autres sur ce sujet, et nous avons le plaisir de lui demander de nous éclaircir cette question. Le racisme est-il, et donc l'antiracisme, sont-ils réellement universels?
Merci. Alors, je voudrais remercier Quentin, Chloé et Morel pour cette invitation. Alors, moi, comme l'a dit Jean-François Quentin, je suis anthropologue. Hein, je ne suis pas ni membre de l'UNESCO, ni de l'ONU, ni spécialiste de l'UNESCO, de l'histoire de l'ONU. Je suis un anthropologue africaniste, d'ailleurs, discipline contestée maintenant, spécialiste d'Afrique de l'Ouest, plus spécialement du Mali. Et mes thèmes de recherche, de prédilection, disons, sont la déconstruction de l'ethnie, de l'identité et donc de la race, forcément. Hein. Donc, le thème de mon intervention, c'est, comme l'a annoncé Jean-François Quentin, c'est le rapport entre l'antiracisme universaliste, donc défendu historiquement par l'ONU et par l'UNESCO, et puis l'antiracisme politique, qui est une nouvelle version de l'antiracisme. Et donc je vais plutôt parler de la France, hein, pas tellement de l'horizon international. D'ailleurs, tout a été dit par M. Doudou précédemment. Il a brassé une vaste fresque du racisme à l'échelle globale, mondiale. Moi, je vais plutôt parler de la France. Parce qu'on est à un peu plus de 3 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Et ce qu'on peut constater, c'est que, de façon générale, et pas spécialement par rapport au racisme ou à l'antiracisme, la gauche est profondément désunie, comme vous le savez. Pas seulement d'ailleurs en raison de la profusion des candidats et de la rivalité entre eux, ce n'est pas la peine de citer des noms, mais une autre raison me semble plus importante, c'est à savoir les profondes divergences de doctrine qui ont été mises en lumière ces derniers mois. Et je crois qu'il existe d'ailleurs à ce sujet une fracture profonde au sein de la gauche entre un pôle universaliste, justement, on en a déjà parlé, républicain, et d'une part, et un pôle antiraciste politique, d'autre part. Et alors, ces divergences, elles ont été exemplifiées, elles sont notamment apparues de manière exemplaire par le colloque qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps ici, à la Sorbonne. Enfin, je ne sais pas si c'était dans ce bâtiment ou de l'autre côté de la rue du Faubourg-Saint-Jacques. Ces divergences ont été exemplifiées de manière exemplaire par le colloque de la Sorbonne, qui a eu lieu le 7 et le 8 janvier dernier, contre la déconstruction, contre la culture woke, c'est-à-dire la culture de l'éveil, de la conscience, de la vigilance envers toutes les formes de racisme et de discrimination, contre la cancel culture, c'est-à-dire la culture de l'annulation assimilée à une forme de censure, c'est-à-dire que tout court, tout écrit est fustigé en raison de ces attendus racistes, que ce soit le racisme de genre ou le racisme concernant la couleur de la peau, etc. Critique aussi des studies, ce qu'on appelle des studies, c'est-à-dire tout ce qui vient des États-Unis, les black studies, les gender studies, les études sur les noirs, les études sur le genre. Donc ce colloque a reçu une consécration officielle, puisque le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer l'a inauguré et a assisté à ce colloque Thierry Coulon, le directeur du Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Donc c'était vraiment un colloque officiel qui donnait d'une certaine façon le la en matière de, non seulement de, pas tellement en matière de lutte antiraciste, mais en matière d'idéologie, si vous voulez, d'idéologie de ce qu'il fallait faire dans l'espace universitaire, dans le contexte universitaire. Et d'ailleurs, ça a été assimilé par certains à une forme de maccartisme, hein, de contrôle des consciences, des idées, des opinions, des enseignants. Or, à ce colloque, ont été présents ou même sont intervenus des personnes qui s'expriment habituellement dans des magazines de gauche, comme l'Obs, par exemple, le Nouvel Observateur, ou même qui ont fait partie de comités de rédaction, comme de revues qui ont disparu d'ailleurs maintenant, mais qui étaient considérées comme d'extrême gauche, je pense au Temps Moderne, fondé par Jean-Paul Sartre. Ce n'est pas la peine de citer de nom, hein, si vous voulez, je vous les donnerai tout à l'heure en privé. Mais bref, on a l'impression d'une crispation et d'une radicalisation qui pousse certains ou certaines à rejoindre les positions de la droite et du printemps républicain. L'anti-wokisme, l'anti-éveil, l'hostilité à la cancel culture, à la déconstruction, puisqu'on a même fustigé Jacques Derrida, l'hostilité au politiquement correct, ce qui est taxé de politiquement correct, pousse certains et certaines à fustiger certains de leurs collègues, à les traiter d'islamo-gauchistes et à avoir en eux des destructeurs de la science occidentale considérée comme universelle. Alors, en face de cette position, en face des tenants de cette position, on trouve donc des gens qui sont opposés et qui sont ce qu'on pourrait appeler les partisans de la théorie du genre, de la race, de l'intersectionnalité et des études post- ou décoloniales qui poussent des cris d'orfraie lorsqu'ils ou elles sont accusés d'imposer leur vue au monde de la recherche et de l'université. Et je pense en particulier, il y a une réaction à ce colloque de la Sorbonne des 7 et 8 janvier dernier, c'est le colloque de la Ligue des droits de l'homme, qui est une organisation qui est proche du MRAP, et qui a été organisé à l'EHESS, à l'École des hautes études en sciences sociales, le 26 janvier dernier. Donc pour eux et pour elles, pour ceux qui ont, et celles qui ont participé à ce colloque critique à l'égard du colloque de la Sorbonne, il n'existe que des savoirs situés de race et de genre et insérés dans des périodes historiques bien délimitées, de sorte que la science occidentale ne peut pas est incapable de prendre en compte tout l'apport qui lui vient des subalternes, qui lui vient des continents comme l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, l'Océanie, etc. Et je vais prendre un exemple de cette position subalterniste, si vous voulez, ou décoloniale, peu importe. Je vais citer l'historien Jean-Baptiste Frézos, qui est en même temps éditorialiste au Monde, et qui a écrit le 20 janvier 2022, donc 20 janvier dernier, un article qui s'appelait « Un colloque loin des conventions universitaires ». Et donc, il s'opposait aux interventions du colloque de la Sorbonne. Il opposait l'idée qu'il prenait l'exemple du physicien Newton, et il disait dans cet article que la recherche de Newton, la physique de Newton, s'inscrivait dans un monde, c'est donc loin de l'idée que c'est une science purement occidentale, la physique de Newton, que la physique de Newton s'inscrivait dans un monde impérial en plein essor, et que dans son opus magnum, dans son œuvre principale, Le système du monde, paru en 1687, Newton déployait une démonstration de la théorie universelle des marées, hein, les marées qui vont, qui viennent, etc. Et donc, il montrait que la conceptualisation de la théorie universelle des marées chez Newton dépendait du réseau d'informateurs produit par le réseau commercial britannique et français. Et donc, de tous les informateurs qui étaient présents, qui vivaient en Inde, etc., et qui pouvaient apporter leurs connaissances locales pour l'élaboration d'une théorie qui est ensuite la théorie de la gravitation, qui est devenue une théorie universelle. Alors, évidemment, que la science occidentale ou la philosophie occidentale soient les héritiers de savoirs non occidentaux, ça n'est pas contestable. Ça vient bien de quelque part. La science occidentale, elle n'est pas née comme ça, toute nue, hors de l'onde. Mais cela remet-il pour autant la validité des énoncés mathématiques et physiques qui seraient valables ou qui sont valables en tout temps, en tout lieu et pour toute personne. La véritable question, me semble-t-il, est de savoir s'il existe des savoirs natifs, endogènes. Et là, je me réfère au philosophe béninois Paulin Hountongi. Le second Paulin Hountongi, parce que le premier avait critiqué l'ethnophilosophie africaine, mais le second pour la Hountongi, dans un livre qui s'intitule « Les savoirs endogènes », qui est paru à Dakar, dans le pays de M. Doudoudienne, qui a été publié par le Codesria, qui est une organisation indépendante africaine qui ne recrute que des Africains et qui fait des recherches à partir de thèmes définis comme étant africains. Donc, dans son ouvrage « Les savoirs endogènes », paru à Dakar et publié par le Codesria en 1994, Paulin Hountongi énonce l'idée qu'il y a des savoirs alternatifs et, par exemple, des mathématiques indigènes, des mathématiques indigènes qui seraient propres, qui auraient été formulées indépendamment des mathématiques occidentales en Afrique, en Amérique latine, en Asie ou en Océanie. Et alors, est-ce qu'il existe véritablement des mathématiques indigènes qui seraient radicalement différentes des mathématiques, de la mathématique ou des sciences mathématiques occidentales? Le problème est complexe, mais en tout cas, ce qu'on peut constater, ce que j'ai pu constater à travers mes travaux de terrain, c'est que, par exemple, l'un des savoirs alternatifs ou l'un des savoirs endogènes que met en avant Paulin Hountongi, la géomancie africaine, la divination africaine qui se fait en traçant des signes sur le sable, la géomancie africaine qu'il prétend être autochtone, est en fait une géomancie influencée par la géomancie arabe et au-delà la géomancie indienne et la géomancie chinoise. Donc ces savoirs prétendument natifs, propres à des sociétés dites sans écriture, ne sont souvent en fait que la réfraction de systèmes scripturaires, de systèmes écrits importés, comme je l'ai dit, la géomancie arabe, la géomancie indienne et plus lointainement la géomancie chinoise. Donc que la science occidentale se soit constituée à partir de savoirs antérieurs et extérieurs et qu'elle ait imposé par la suite sa vision par la domination que l'Occident a exercée sur le reste du monde, est-ce que ça invalide pour autant sa démarche, son objectivité? Que les mathématiques occidentales soient les héritières de mathématiques africaines, amérindiennes, océanienne ou asiatique, est-ce que ça invalide pour autant son universalité, le fait que ces énoncés soient valables en tout temps, en tout lieu et pour toute personne? Je ne le pense pas. N'existe-t-il que des savoirs situés de race, de genre et de culture? La question est désormais posée parce que l'observation des sociétés exotiques, des sociétés africaines, amérindiennes, asiatiques, océanienne, par des anthropologues occidentaux, est-ce que ce savoir doit être disqualifié comme un savoir blanc, fait par des blancs, par des occidentaux, par des européens? C'est le sujet du roman paru récemment, que je vous recommande d'ailleurs chaudement, c'est le sujet du roman paru récemment de l'écrivain togolais Sami Tchak. Ce roman s'intitule « Le continent du tout et du presque rien ». Il met en scène un anthropologue blanc qui séjourne pendant 2 ans dans un village du Nord Togo. La question que Sami Tchak pose est celle de la verticalité du regard extérieur, de la position de surplomb de l'anthropologue, qu'il soit blanc ou noir d'ailleurs, parce que pour lui, ce n'est pas le problème. Lui-même a d'ailleurs été sociologue, anthropologue, avant de devenir écrivain. Donc, il a fait des enquêtes aux Antilles ou dans d'autres pays d'Afrique. Et donc, ce qu'il pose comme problème, c'est la verticalité, c'est-à-dire la position de surplomb du savant, du chercheur en sciences sociales, de l'anthropologue, du sociologue, sur la population qu'il étudie. Et donc, la question qu'il pose, c'est celle du champ sémantique des catégories. Et il prend comme exemple la catégorie de nostalgie, la catégorie de nostalgie en français, qui est un champ sémantique défini, et dont il dit qu'en fait, elle ne correspond pas exactement au champ sémantique de la notion telle qu'elle est utilisée par la population du Nord Togo à laquelle il fait référence dans son roman, parce que la nostalgie dans cette population fait écho à la notion de fermentation. Il dit qu'on ne peut pas parler de la nostalgie en général, on ne peut pas projeter la catégorie de nostalgie sur des sociétés exotiques, et notamment sur cette société du Nord Togo, si on ne tient pas compte du champ sémantique que la notion de nostalgie comporte dans cette société, c'est-à-dire celle d'être associée à celle de fermentation. La nostalgie, c'est dans cette société-là, elle est présentée comme étant une fermentation. Donc le problème que pose Samitschak, c'est de savoir si les premiers concernés, c'est-à-dire les Africains, les Amérindiens, les Océaniens, les Asiatiques, est-ce que ces premiers concernés peuvent être observés, ne peuvent être observés que par les premiers concernés, les racisés par les racisés, c'est-à-dire est-ce qu'un blanc, par exemple, peut faire une enquête sur les Noirs et les Arabes en France? Est-ce que les hommes peuvent faire des enquêtes sur les femmes? Ça s'applique aussi à la notion de genre. Est-ce que les genrés, c'est-à-dire les femmes, par exemple, ne peuvent être étudiés que par des femmes? Et donc, est-ce qu'il y a aussi, autre problème, une opacité des cultures exotiques, telle que le dit Édouard Glissant? Est-ce qu'il y a des choses qu'un observateur extérieur ne peut pas comprendre dans une culture africaine, dans une culture amérindienne, dans une culture asiatique, dans une culture océanienne? Et donc, on en revient au relativisme culturel. Chaque culture ne devant être interprétée que dans les termes de ces catégories, de cette propre culture. Or, le problème qui est posé, c'est que les anthropologues africains, eux-mêmes, utilisent les mêmes catégories que les anthropologues occidentaux. Donc, là, je me place dans la situation qui est la mienne en tant qu'anthropologue africaniste blanc travaillant sur les sociétés africaines. On a peine désormais à se ménager un espace d'expression entre le printemps républicain et les décoloniaux. Je rappelle que Gérard Noiriel et Stéphane Beau ont renoncé à parler publiquement de leur livre « Race et sciences sociales », dans lequel ils critiquent la substitution du concept de race à celui de classe. Personnellement, je me suis fait vertement critiquer, au sens figuré, même lynché au sens figuré, lors de la présentation du livre que j'ai écrit avec Souleymane Bachir Diagne, un compatriote de M. Diagne. Le livre s'appelle « Enquête d'Afrique ». Universalisme et pensée décoloniale, parce que je me présentais comme marxiste et que les idées que j'exprimais dans ce livre n'ont aucunement été prises en compte par les médias. D'ailleurs, ce sont le structuralisme et le marxisme qui sont désormais contestés par certains marxistes eux-mêmes comme relevant d'un universalisme de surplomb, comme l'imposition de catégories universalistes sur l'ensemble des sociétés que l'histoire a connues. Selon ses auteurs, Marx lui-même, dans sa correspondance avec Vera Zasulich sur le mir russe, sur la communauté rurale russe, se serait montré un adversaire du matérialisme historique. Selon ses auteurs, et je pense ici particulièrement à Kolja Lindner, dans son livre « Le dernier Marx », qui est paru en 2019, la totalité des sociétés de l'histoire ne saurait être analysée selon les mêmes catégories, ce qui est l'idée de Karl Marx dans son livre Les fondements de la critique de l'économie politique, qui est paru en 1857. Dans sa célèbre lettre adressée à Maurice Thorez en 1956, Aimé Césaire, qui critique en fait le stalinisme du Parti communiste de cette époque, en fait, sa critique qui était contenue dans cette lettre, est maintenant interprété comme une critique du marxisme et de l'universalisme de Karl Marx. Bon, donc ce que je voudrais dire, c'est que en fait, il ne fait pas bon, et là on en revient à la question de l'universalisme, il ne fait pas bon être marxiste, blanc et âgé par les temps qui courent, et sans parler de racisme anti-blanc, qui est une notion que je récuse, bien sûr, Il faut sans doute évoquer l'existence d'un handicap blanc. C'est difficile de s'exprimer actuellement en tant que marxiste blanc cisgenre, et en plus quand on est âgé, quand on veut s'exprimer, quand on veut prendre parti sur la question du racisme. Le débat actuel qui traverse la gauche et l'extrême gauche au sujet de ces questions de genre, de race et d'intersectionnalité est complètement piégé, et c'est la raison pour laquelle je n'accepte d'intervenir sur ces sujets que devant un auditoire que j'estime ouvert à cette démarche, comme c'est le cas ici, dans le cadre de cette invitation que m'a faite le MRAP. La période actuelle est donc celle où règne la plus grande confusion, et c'est ce qui explique l'hésitation et le balancement de certains candidats à l'élection présidentielle entre un antiracisme universaliste et un antiracisme politique. Jean-Luc Mélenchon en étant le plus parfait exemple. En effet, les notions de créolisation empruntées à Édouard Glissant et de république créole, auxquelles il adhère, sont à mon sens une impasse théorique dans la mesure où elles reconduisent l'existence même d'une diversité de cultures et que par conséquent, elles paraissent bien faibles par rapport à l'argumentation de Éric Zemmour qui la récuse et qui prône pour sa part l'assimilation. Face à Mélenchon, qui prône le mélange des cultures présentes sur le sol français, Zemmour dénonce le grand remplacement du cassoulet par le couscous. Mais en définitive, au-delà de cette opposition, tous deux s'accordent pour reconnaître qu'il s'agit de deux plats séparés. Or, la position juste, selon moi, et je terminerai là-dessus, c'est de rappeler que le cassoulet est lui-même un plat métis, puisque les haricots n'y ont fait leur apparition qu'après la découverte de l'Amérique. Défendre la créolisation du monde, c'est défendre l'idée du rapprochement et de la fusion de cultures distinctes, et donc, à mon sens, entériner in fine la différence et la séparation entre les dites cultures. Je vous remercie.
Alors, merci beaucoup. Cette intervention, comme la précédente d'ailleurs, nous crée de plus en plus d'embarras, parce que ceux qui croyaient qu'être antiraciste, être universaliste, c'était une chose simple et évidente, eh bien, il voit que c'est beaucoup plus complexe qu'on le croit. Et alors, il ne faut pas croire que ce soit qu'un débat universitaire. On le rencontre en effet dans la population, dans certaines parties de l'opinion publique. Et nous sommes confrontés à ces questions beaucoup plus complexes qu'on ne le croit.